Alors ce matin, on va parler, pas vraiment de ce point fixe, enfin oui, oui et non, on va parler du retour de Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, c'est un sujet qui est assez difficile à aborder, parce qu'il y a eu beaucoup de bêtises qui ont pu être dites sur ce sujet, il y a eu beaucoup d'erreurs d'interprétation, des essais de trouver des dates, etc. Donc... C'est assez délicat comme sujet d'aborder ce sujet du retour de Jésus-Christ, mais en même temps, c'est un sujet qui porte de l'espérance, parce que Jésus-Christ va revenir. C'est ce que Cyril vient de dire tout à l'heure, qu'il arrivera un temps où on n'aura plus besoin de partager le pain et le vin, parce qu'on sera avec lui. Donc, on va lire dans le livre, l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Alors, je ne sais pas si... Ça s'affiche, c'est formidable. On va lire, on va pas pouvoir lire tout, enfin on aurait pu, mais on va pas lire tout le chapitre. Vous pouvez le relire chez vous et prendre du temps pour relire ce passage à tête reposée. On va déjà lire les versets 1 à 14. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe? Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et puis on va lire un peu plus loin, 32 à 35. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et puis encore, on va lire 36 à 42. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. « Alors c'est vrai qu'on pourrait, par rapport au retour de Jésus, on pourrait parfois aussi avoir un peu peur d'être bousculé dans nos plans, dans notre attachement à notre vie ici-bas, à tout ce qu'on a, tout ce qui va bien, tout ce qu'on aime faire. On peut être même un peu bousculé dans nos fondements. Hein? Qui a vraiment la première place dans nos cœurs? Qu'y a-t-il de ça si important que nous ne souhaitions même pas, finalement, que Jésus revienne bientôt? De toute façon, il n'y a pas deux solutions possibles, deux positions possibles. Soit on se réjouit à la perspective de son retour, et nous sommes dans l'attente, dans l'espérance, dans l'impatience même. Il peut y avoir plusieurs façons. Il n'y a pas tellement de façons et de situations possibles par rapport au retour de Jésus. Soit nous aimons tellement notre vie sur terre, nos biens, nos plans, qu'au final, on n'y pense pas trop et nous ne souhaitons même pas vraiment qu'il revienne. Alors dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Et il y a toujours un contexte. Le texte qui vient est le passage aussi, qui vient avant et le passage qui va être après. Donc avant le passage que nous vous avons lu, il y a Jésus qui parle des scribes et des pharisiens, hein, qui avaient par tous les moyens essayé en vain de prendre Jésus en défaut par rapport aux lois de Dieu. Alors il fait toute une description de leur hypocrisie. C'est juste dans le chapitre d'avant, je vais vous les lire parce que je ne sais pas. C'est le verset 23. Pardon, chapitre 23, verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges franges, de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Et au verset 6, ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Alors il fait de très sévères reproches aux pharisiens. Par exemple, le chapitre 23, toujours, au verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne pire que vous. Donc, il y a aussi au verset 33, on ne va pas tout lire, « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne ?» Donc Jésus, il avait réellement souvent été confronté aux hommes de la loi, et pourtant ces hommes aimaient la loi de Dieu. C'est premièrement ce que Jésus relève. Hein. Il dit en fait qu'ils font les choses, enfin ils ont une théologie juste en fait, ils aiment Dieu, ils aiment la loi de Dieu, puis pourtant il y a quelque chose qui ne joue pas dans leur cœur, c'est dans leur cœur que ça se passe. Voilà, donc le passage qui suit c'est la parabole des 10 vierges, vous la connaissez certainement très bien, hein, les 10 vierges qui attendent l'époux. C'est une exhortation à veiller sur notre état d'esprit dans l'attente du retour de Jésus, la préparation intérieure. Et revenons un peu sur les scribes et les pharisiens. Ils sont excellents à beaucoup d'égards. Alors, comme je le disais, ils connaissent la parole de Dieu, ils aiment les lois de Dieu. Et c'est d'ailleurs ces qualités que Jésus relève au début. Il dit « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Là encore, il est question d'état d'esprit, de position de cœur, de motivation. Alors, au texte qu'on vient de lire, c'est les disciples qui veulent savoir. Ils viennent en particulier vers Jésus et ils lui posent cette question. Mais alors, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'était le verset 1 et 3. Donc, c'est les questions que les disciples se posaient déjà. Ils voulaient savoir par rapport à ce que Jésus leur avait dit. Et Jésus, d'emblée, les met en garde. Que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est dans le verset 5 qu'on voit ça. Car plusieurs viendront sous mon nom, en disant « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Alors à travers les siècles, bien sûr, beaucoup de gens se sont levés pour finalement soit se déclarer comme le Messie ou alors proclamer des choses qui étaient pour détourner finalement les chrétiens. Les versets 6, 7 et 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors tout au long des siècles, des guerres ont fait d'immenses ravages. Encore avec ce que Adrien parlait tout à l'heure par rapport à un homme comme Napoléon qui avait de telles ambitions qu'il n'hésitait pas à faire la guerre partout où il pouvait pour essayer de devenir le maître du monde. Des guerres. Et aussi des tremblements de terre et des famines. Ces dernières décennies, il y a eu une accélération de ces événements. Et au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le verset 9 et 10. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs aussi succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est principalement en fait l'Église persécutée qui a traversé cela. Depuis l'Empire romain jusqu'à nos jours, il est estimé que environ 260 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde aujourd'hui. Et c'est assez incroyable tout ce qu'il y a déjà eu comme horreur, comme injustice, comme vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Il y a des gens qui sont juste mis à mort ou mis en prison juste parce que ils ont simplement ouvert la Bible, cru en Jésus-Christ, et ça, pour beaucoup, ça suffit pour être complètement privé de toute leur liberté, ou alors aller jusqu'à des tortures ou jusqu'à la mort. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est encore bien d'actualité. L'Église du monde libre, on va dire comme ça, est la proie à toutes sortes de doctrines, qui infiltrent parfois même les Églises. Là encore, vigilance. C'est assez difficile de pouvoir finalement discerner. Et heureusement, on a la parole de Dieu qui est écrite et qui a traversé elle aussi les siècles pour que justement on puisse avoir un moyen, un filtre pour pouvoir savoir finalement ce qui vient de Dieu et aussi savoir ce qui vient de ce monde ou de l'esprit de ce monde simplement ou l'esprit de l'homme, simplement de l'homme. Pierre, qui venait de déclarer que Jésus est le Christ, le Messie, si vous vous souvenez de cet épisode, il y a Jésus qui demande, mais qui disent les gens que je suis? Pierre, il va dire, mais tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Puis juste après l'annonce de ça, Jésus va annoncer sa mort. Puis alors il va reprendre Jésus, puis il dira, mais à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voilà pourquoi le risque est grand de confondre nos pensées avec celles de Dieu. Ou alors, on risque de ne pas forcément d'emblée discerner ce qu'est un faux prophète. Et sur Internet, on pourrait trouver pas mal de choses aussi sur ce sujet-là, sur plein de sujets. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être de manière à déstabiliser. Et c'est bien d'avoir justement, comme je le disais, un moyen de filtrer, vérifier, pour savoir si ça correspond à la parole de Dieu ou à la pensée de la parole de Dieu. Au verset 12. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Franchement, l'iniquité qui s'est accrue. Moi, je trouve que... Je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à ça, mais ces 30 dernières années, on peut dire que l'immoralité, la dégradation morale de notre société, en tout cas, elle s'est vraiment accélérée. On pourrait énumérer, on y passerait le matin complet, à tellement il y aurait de choses à énumérer de l'accélération de l'immoralité en tout genre dans notre société. Actuellement, notre gouvernement décide de prolonger l'avortement jusqu'à 9 mois. Déjà que c'était déjà terrible de légaliser l'avortement.
Pas 9 mois, pas 9 mois, c'est
14 semaines. 14 semaines,
9 mois, ça fait... Alors, ça sera à vérifier. Moi, j'ai entendu qu'il y avait des décisions qui vont être prises dans ce sens. Pour certains cas, par exemple, une fille en difficulté pourrait décider de légalement faire avorter. Ouais, c'est à vérifier, mais regardez, vous pouvez vous renseigner vous-même. Voilà ce genre de loi qui se passe en ce moment. Ils regardent en ce moment pour statuer sur la possibilité d'acheter des enfants. Par internet, choisir le sexe, la couleur, et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est des lois iniques qui sont décidées. Aujourd'hui, en ce moment même, où le gouvernement met le plein feu, met le plein accent sur la crise sanitaire. Donc il y a des conséquences terribles, bien sûr. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y a déjà longtemps que je me dis ça, moi, en moi-même. Mais qu'est-ce que Sodome et Gomorre ont fait de pire que nous? Notre société qui se plaît à regarder toutes sortes de violences, toutes sortes d'horreurs. Humilions-nous de ce qui se passe. Seigneur, nous et nos pères, nous avons péché. L'attitude de Daniel, qui pourtant était un homme droit et juste, et pourtant lui, il dit, nous et nos pères, nous avons péché. Face à ce constat, à l'état de son peuple. Et nous, on peut aussi avoir cette attitude-là. Seigneur, prends pitié. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance est une qualité indispensable pour tenir le coup, pour avancer. Donc c'est à développer sans modération. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'évangélisation, à chaque occasion qui se présente, Seigneur, viens nous inspirer. C'est pas si facile de témoigner, de partager, on ne sait pas comment aborder le sujet. Seigneur, viens à notre secours, aide-nous à parler de toi. 32, 35, que je vais relire. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il y a beaucoup de commentateurs qui disent que le figuier est un symbole d'Israël. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses branches poussent, vous savez que l'été est proche. C'est un signe qui est peut-être qui est donné, en tout cas c'est comme ça que certains l'interprètent, que le retour de Jésus est proche, Jésus est à la porte. En 1948, il y a eu un événement extraordinaire, après environ 19 siècles. Israël qui était dispersé, disséminé, la diaspora, sur toutes les nations, presque, de la terre, et pourtant, ils n'avaient plus d'endroit, plus de terre, et après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, ils ont pu retrouver leur terre, et c'est de nouveau, il y a eu la proclamation d'un État, l'État d'Israël. C'est l'accomplissement d'une des prophéties qui était là, écrite bien des siècles à l'avance. Donc, c'est là qu'Israël a retrouvé les terres promises à Abraham. C'est un miracle, bien sûr. Et Roger Libby, peut-être que quelques-uns le connaissent, c'est un docteur, un spécialiste, un théologien. Il a écrit un livre sur ce sujet. Il a relevé qu'il y a, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, 83 prophéties qui se sont accomplies concernant Israël, de manière directe, liées à d'abord cet événement de 1948, puis après aussi beaucoup d'autres prophéties qui sont arrivées. Donc, finalement, l'accomplissement de telles prophéties, ça ne peut que nous émerveiller. Mais quel Dieu, quel autre Dieu, finalement, pourrait même annoncer à l'avance de telles choses? Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Quel Dieu formidable. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Alors, avec la précipitation des événements, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Donc, il y a des événements qui se précipitent, ça c'est sûr. Et c'est, finalement, là, il y a des signes qui arrivent. On peut les voir, on peut les observer. Hein, et on sait que le retour de Jésus va être proche. Rien que d'y penser, moi, ça me réjouit énormément de savoir que Jésus revient bientôt. Alléluia, ça va être la délivrance. Ça va être la justice pour tout, pour toutes les personnes qui auront pu être bafouées dans leurs droits, bafouées. Il y a une véritable justice qui arrive avec Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Par ces paroles, Jésus nous met en garde contre le risque de prendre ces paroles, ou les paroles que l'on trouve dans l'Apocalypse, comme une sorte de livre d'astrologie, et pour essayer de découvrir une date. La démarche serait malsaine, en fait. Si l'on connaît la date, on pourrait avoir de mauvais raisonnements. Il me reste tant de temps pour moi, mes projets, mes plans, je me préparerai donc à la dernière minute. Ces signes sont donnés pour nous aider à préparer nos valises, en quelque sorte. Lorsqu'on va faire un grand voyage, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse? Il vaut mieux bien réfléchir quand on fait un voyage d'une grande durée. Si on a, par exemple, un voyage à faire pour 2 ans, qu'est-ce qu'on va forcément réfléchir? Il y a des choses que je ne vais pas pouvoir emmener, c'est pas possible. Donc, il va falloir que j'en abandonne. Puis, qu'est-ce que je prends vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment indispensable? Puis, qu'est-ce qui n'est pas? En fait, il y a en gros 2 façons d'aborder ce passage. Soit c'est une mauvaise nouvelle, c'est bientôt la fin du monde, c'est l'horreur de tout ce qui est annoncé, si on lit l'Apocalypse aussi, hein, rapport à ce genre de passage. Soit on voit ça comme toutes ces horreurs. Il y a effectivement les jugements de Dieu qui vont arriver, et ça va être terrible, bien sûr. Mais c'est une bonne nouvelle, parce que Jésus revient. Soit on pourrait le prendre comme une bonne nouvelle. D'ailleurs, voilà, ça peut être pris comme cela. C'est les noces de l'agneau. C'est enfin le rétablissement de toute chose. La création entière soupire après le retour de Jésus. C'est écrit dans la Bible. Hein? Et quand on pense, c'est pas un texte que j'ai pas relevé les références, mais dans l'Apocalypse, il est question des chrétiens qui ont été injustement mis à mort à cause de leur foi. Et ils disent, Seigneur, mais jusqu'à quand tarderas-tu de nous faire justice? Donc Dieu patiente parce qu'il veut encore que des personnes puissent entendre ce message, cette bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà. Mais y aura un rétablissement de toutes choses et il y aura une justice aussi pour ceux qui auront été injustement persécutés à cause de leur foi en Jésus. Alors si l'on pensait à cette comparaison que l'Église est une fiancée, alors que fait une fiancée? Quand elle se prépare en vue du mariage, à quoi pense-t-elle? Est-ce qu'elle pense que à sa vie qu'elle va perdre? Oh, c'est terrible, je suis tellement bien toute seule à décider tout ce que je veux. Bon, après le mariage, c'est possible qu'il y en ait qui disent ça encore, mais soupir après ça, c'est possible. Mais néanmoins, enfin bref, la préparation du mariage, c'est « Ah, super, enfin je vais pouvoir vivre avec mon fiancé, j'attends ce mariage, j'attends ce jour. » Donc forcément, il y a une attente qu'elle a, et tous les jours je pense qu'elle y pense. Alors elle aussi, elle aura des choix à faire, comme je disais, à faire des valises. Hein. Donc elle va aussi, en tant que fiancée, avoir finalement, je vais abandonner certaines façons de vivre pour en avoir d'autres. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle prend, qu'est-ce qu'elle laisse? J'ai une petite histoire qui pourrait être presque une parabole à raconter. Il y a, alors je ne suis pas très précis dans les chiffres, mais l'essentiel de l'histoire, c'est qu'il y a un jardinier, un intendant, qui doit gérer, c'est une histoire vraie, c'est, qui doit gérer une propriété, un château, une maison de maître, puis il doit faire ça de manière impeccable. Puis il y a quelqu'un qui vient visiter ce jardinier-là, un ami qui vient lui rendre visite. Puis, « Waouh, mais comme c'est tenu impeccable, c'est magnifique, c'est vraiment formidable !» Waouh, alors c'est que le patron, il doit être sévère. Ça fait combien de temps que tu l'as plus revu? Ah bah ça doit faire une quinzaine d'années. Ah bon? Puis tu entretiens ça, tout ça, comme s'il allait revenir demain? Non, 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 comme s'il revenait aujourd'hui. Ça, c'est parlant, vous ne trouvez pas? Il y a un gars qui doit gérer une propriété. Ça fait 15 ans qu'il n'a plus vu le patron. Il y a de fortes chances qu'on pourrait se dire à sa place, ça fait 15 ans qu'il n'est pas venu, demain sûrement qu'il ne va pas venir, la semaine prochaine, je vais pouvoir inviter des potes, on va pouvoir faire une petite soirée, on va peut-être pouvoir aller jouer au tennis, j'en sais rien, enfin bref, plein de trucs quoi, qu'il pourrait être imaginé de cette liberté qu'il a de choisir de faire tout impeccable ou de se laisser complètement aller à se dire, attends, j'ai 15 ans qu'il n'est pas revenu, mon chef là, je peux vivre comme je veux, j'ai pas mal d'autres choses à penser. Quel est le risque que je prends finalement de vivre ma vie n'importe comment? De toute façon, 15 ans qu'il n'est plus venu. Je me laisse aller. Et en fait, franchement, cette histoire-là, elle m'avait déjà marqué. Il y a peut-être plus de 20 ans que je l'ai lue sur les petits feuillets du calendrier qu'on lit. On est nombreux à le faire, à lire ces petits feuillets de calendrier. Ça m'avait bien marqué, cette histoire. C'est un peu ce que Jésus dit. Hein? Veillez et priez, vous ne savez pas à quel moment ce retour sera là. Alors bien sûr, quand on attend, ben le temps il est long. Il passe lentement, et puis le découragement peut nous envahir parfois. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Elle ne laisserait pas percer sa maison. Alors veillez, priez, attendre, criez à Dieu parfois. Recentrez nos pensées sur le but. Nous sommes pèlerins, en fait, voyageurs sur cette terre. Je ne sais pas si plusieurs, peut-être, doivent avoir lu ou entendu parler du voyage du pèlerin de Georges Bunyan. Ça montre bien la condition de quelqu'un qui accepte de croire au Jésus-Christ et qui se met en marche, en fait, pour suivre Jésus. Puis il y a tout plein de choses qui arrivent pendant tout son parcours. Mais qu'est-ce qu'il rencontre comme difficulté? Dès le début, il tombe dans le marécage du découragement. C'est toutes des images pour dire, mais voilà, tout ce qu'on rencontre en tant que chrétien. Il y a des gens qui vont se présenter pour détourner sa route. Ça aussi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a des risques qu'on se trompe de chemin. Enfin, et qu'on se trompe de but finalement. Recentrer nos pensées sur le but. Comme il est dit dans Hébreux, nous n'avons pas ici de cité permanente ici-bas, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc là aussi, il y a cette idée qu'on n'a pas une cité permanente sur la terre, on a une espérance qui est devant nous. Alors, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, verset 28, c'est exactement le même passage, mais c'est Luc qui l'écrit et il dit les choses un tout petit peu différemment. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Alors en fait, le principal ce matin à retenir, s'il y a quelque chose à retenir, hein, de vraiment principal, c'est pas finalement de se mettre en recherche, de trouver des dates, faire coïncider tel événement, se dire, ben voilà, ben les gens du temps de Napoléon pourraient se dire, ben, il y a un antéchrist qui s'est levé, il y a eu des tas de possibilités à différents moments de l'histoire où on aurait pu se dire ça. Voilà, ça correspond pile à l'Apocalypse. Le but, il n'est pas là. Le but, il n'est pas de découvrir des dates, de spéculer, de faire tout ce qu'on pourrait faire autour de ça. C'est plutôt, voilà, cette idée de Quel but je vise? Comment j'attends le fiancé? Comment j'attends ce retour de Jésus? Comment je vis mon quotidien dans cette perspective-là? Et quelle force ça peut me donner aussi pour traverser les différentes épreuves que je vais traverser, qu'on va tous traverser? Comment, finalement, voilà, c'est une espérance, il y a un but, et c'est Jésus-Christ qui revient. Relevez vos têtes, relevons nos têtes, parce que notre délivrance approche. Amen. Amen.